L'objectif pour la France est qu'il n'y ait pas de victoire russe, a affirmé dimanche le ministre français délégué aux affaires européennes Clément Beaune. Le chercheur de guerre, le facteur de guerre, c'est Vladimir Poutine, a affirmé l'ex-secrétaire d'État aux affaires européennes, promu ministre délégué après la victoire d'Emmanuel Macron à la dernière présidentielle. Rappelons que la semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait reproché à Emmanuel Macron de vouloir ménager une porte de sortie au président russe Vladimir Poutine et se montre réservé sur son projet de communauté politique européenne. Quelle analyse faites-vous sur cette déclaration de Clément Beaune qui précise que l'objectif pour la France est qu'il n'y ait pas de victoire russe et où en sont les relations entre Paris et Moscou? Décryptage avec Arnaud Develay, juriste et analyste politique.
Alors visiblement, les déclarations d'Emmanuel Macron se sont confrontés au mur de la réalité, à savoir que, comme j'ai pu le formuler auparavant, le script, la pièce de théâtre, entre guillemets, n'est pas écrite à Paris, elle est écrite à Washington. Et ce sont donc les néoconservateurs du département d'État et leur relais à la Maison-Blanche qui donnent le « là » pour l'instant. N'oubliez pas que dans l'affaire ukrainienne, la personne qui chapeaute le projet, qui a chapeauté le projet depuis le début, a commencé par le coup du Maïdan en 2014, c'est la numéro 3 du département d'État, c'est Victoria Nuland. Donc, pour l'instant, la ligne officielle, c'est que, et je cite en ces termes, il n'y a pas de sortie d'autoroute pour Vladimir Poutine. C'est-à-dire que pour l'instant, la position officielle de la diplomatie américaine, diplomatie entre guillemets, c'est de jouer l'escalade et de continuer à acheminer un maximum d'armes et d'argent au régime kiévien. Maintenant, dans ce contexte-là, vous avez rappelé les déclarations la semaine dernière d'Emmanuel Macron. Et vous avez vu qu'il s'est fait promptement recadrer par Zelensky lui-même, qui semblait s'offusquer que personnes osent adopter une approche plus raisonnable et réaliste de la situation qui prévaut en Ukraine, en privilégiant la diplomatie et partant de là, en essayant de trouver une solution qui verrait, si on se montre réaliste, l'Ukraine faire des concessions à Moscou. Donc, ceci étant dit, le Quai d'Orsay, lui, par contre, n'a jamais dévié d'un iota depuis la présidence de Nicolas Sarkozy sur beaucoup de sujets, à savoir que c'est une ligne néoconservatrice qui, essentiellement, suit le doigt sur la couture ce qui se fait à Washington. Et dans ce contexte-là, les déclarations de Clément Beaune, qui est conformiste à cette idéologie, s'inscrivent dans ce qu'on a pu entendre de la part de son patron, Jean-Yves Le Drian, depuis plusieurs mois, sur d'autres sujets, mais tout ça s'articule autour d'une vision du monde qui est encore une fois la vision néoconservatrice américaine. Certains diraient presque likoudnik, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de similarités, similitudes. Et dans ce contexte-là, on peut considérer, adopter deux conclusions. La première, c'est que cela confirme que la politique étrangère de la France n'est pas souveraine, mais à la remorque de celle exprimée à Washington. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que, quelque part, la France, de facto, et bientôt déjurée, sera considérée comme une puissance co-belligérante. dans la mesure où, et malgré les déclarations qui ont été faites, la France, on le sait maintenant, a fourni des systèmes d'armement, des canons César, des missiles Milan, et que, il est difficile d'imaginer que cette politique va changer. Et donc, avec le temps, ça va forcément avoir des effets dommageables sur les relations bilatérales entre Moscou et Paris, puisque Moscou ne pourra que prendre acte de la position de la France dans ce dossier. Et on peut penser que cela participe de toute façon à, je dirais pas la tentative, mais ce qui est en train de réussir, et qui est encore une fois formulé à Washington, à savoir recréer une forme de rideau de fer et raffermir pour Washington leur contrôle sur l'Europe de manière générale, afin d'empêcher ce qui devrait normalement être poursuivi, à savoir dans le cadre d'un grand espace continental, un raffermissement des relations avec Moscou, dans la tradition qui avait été, la tradition et la vision qui avait été mise en avant par feu le général de Gaulle, d'une Europe en paix, de Lisbonne jusqu'à Vladivostok. Mais ça, et cela a toujours été aussi quelque chose auquel Washington s'est toujours opposé, à savoir que tout rapprochement entre l'Europe de l'Ouest et ça inclut aussi essentiellement l'Allemagne, puisque dans le contexte, le concert de géopolitique, les enjeux de contrôle, si je puis dire, de la prospérité mondiale, Washington s'est toujours efforcé de faire en sorte que l'Allemagne et la Russie, par exemple, ne se rapprochent jamais. Hein. Vous avez l'expertise technique allemande et les ressources naturelles russes. En cela, cela pourrait créer un axe économique extrêmement puissant en Europe autour desquels les autres pays se grefferaient. Or, c'est une vision du monde que Washington a parfaitement intégrée comme étant contraire à ses intérêts. Et donc, partant de là, il est important pour Washington de créer, même de manière artificielle, un schisme, de telle sorte que, par relais interposé, l'Europe reste sous la coupe de Washington, encore une fois, et participe à un antagonisme qui va à l'encontre des intérêts européens face à la Russie, et ce faisant, recrée une forme de guerre froide qui ne peut profiter qu'à certains intérêts états-uniens qui ont, eux, besoin pour exister et justifier l'octroi de budgets importants de la part du Congrès, d'une menace existentielle. Alors tantôt c'était l'Union soviétique. Après la guerre froide, ils ont inventé une forme d'ennemi chimérique au nom du terrorisme. Et maintenant que la Russie, mais aussi la Chine, se réaffirme comme des puissances capables de rivaliser avec les États-Unis, cela va à l'encontre de ce qui avait été élaboré à l'époque dans le papier qui avait été formulé par le projet pour le New American Century, à savoir qu'il ne peut être toléré l'émergence, ne serait-ce que l'émergence d'une puissance capable de rivaliser avec les États-Unis. Donc, voilà, tout cela s'articule autour d'une position purement américaine, mais sous contrôle néoconservateur, avec les intérêts sur les marchands d'armes et les fabricants d'armes derrière, qui sont vraiment les seuls bénéficiaires de l'économie, entre guillemets, américaine telle qu'elle est depuis une vingtaine d'années maintenant, avec ces guerres continues, ces conflits continus et cette politique du chaos. Et en cela, les positions, dont celle de Clément Beaune, sont parfaitement cohérentes, eu égard au fait que les politiques étrangères respectives des États européens, en tout cas en Europe de l'Ouest, ça c'est sûr, sont sur la ligne néoconservatrice, de toute façon.